Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartrey. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les racines de la conscience de Carl Gustav Jung est un ouvrage majeur de psychologie analytique publié en 1954, consacré au rôle des archétypes dans la formation de la psyché et de la conscience. Le livre relève à la fois de la théorie psychologique, de la recherche symbolique et de la réflexion anthropologique. Jung y développe une idée centrale de son œuvre, selon laquelle la vie consciente repose sur des structures profondes et collectives qui précèdent la personnalité individuelle. Pour éclairer cette thèse, il examine des figures comme la mère et Anima, puis mobilise des matériaux issus de la mythologie, de la religion, de la messe chrétienne, du symbolisme de arbre et de la tradition alchimique. Le livre vise moins à proposer une méthode clinique immédiate que à montrer comment les images collectives orientent la perception, la croyance, le rêve et la quête de sens. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, archétypes comme structure collective de l'expérience psychique. Le cœur théorique du livre réside dans la notion de archétype, que Jung présente comme une forme organisatrice de la psyché plutôt que comme une image précise transmise de génération en génération. Un archétype ne serait pas un contenu mental figé, mais une disposition à produire certaines images, émotions et scénarios symboliques lorsque la conscience rencontre des situations fondamentales. Cette distinction est importante, car elle permet à Jung de relier des motifs très différents sans les réduire à une copie historique directe, la figure maternelle. La présence de anima ou les symboles de croissance ne sont donc pas seulement des thèmes culturels répétés, mais des expressions variables de structures plus profondes. Jung compare parfois ces formes aux catégories philosophiques ou aux structures de la pensée, tout en refusant de les limiter à des abstractions intellectuelles. Elles se manifestent dans les rêves, les mythes, les rites et les productions religieuses. Le livre montre ainsi que la conscience individuelle ne se comprend pas pleinement si elle est isolée de ce fond collectif. Cette approche donne une profondeur historique et symbolique aux phénomènes psychiques, mais elle demande au lecteur de distinguer soigneusement structure universelle, expression culturelle et interprétation personnelle. Deuxièmement, méthode comparative entre psychologie, mythologie, religion et alchimie, Jung ne construit pas son argumentation uniquement sur des définitions conceptuelles. Il avance par comparaison entre des matériaux venus de domaines variés, notamment mythes, rites religieux, textes alchimiques et images symboliques. Cette méthode reflète son ambition de fonder une psychologie des profondeurs, capable de prendre au sérieux des productions que la pensée moderne traite parfois comme des erreurs, des superstitions ou des curiosités historiques. Pour Jung, ces documents ne valent pas seulement comme archives culturelles. Ils sont des traces de processus psychiques collectifs, car ils mettent en forme des expériences intérieures difficiles à exprimer directement. Le recours à l'alchimie est particulièrement significatif. Jung y voit un langage symbolique dans lequel des opérations matérielles peuvent représenter aussi des transformations psychiques. La messe chrétienne et les représentations mythologiques de arbres remplissent une fonction analogue, car elles donnent une forme visible à des tensions entre matière, esprit, mort. Renaissance et totalité. Cette méthode comparative est puissante, car elle élargit la psychologie au-delà du laboratoire et du seul entretien clinique. Elle comporte aussi une exigence critique, puisque le lecteur doit accepter une circulation constante entre histoire des religions, symbolique et théorie psychique, sans confondre analogie et preuve définitive. Troisièmement, image maternelle et anima comme figure centrale de l'inconscient collectif. Parmi les archétypes examinés, Jung accorde une place importante à image de la mère et à anima. La figure maternelle ne se limite pas chez lui à la mère biologique. Elle peut représenter protection, origine, fécondité, enveloppement, mais aussi dépendance, absorption ou menace. Ce double aspect montre que l'archétype possède une puissance ambivalente. Il peut soutenir la construction psychique, mais aussi immobiliser la conscience si son influence reste inconsciente. La notion d'anima dessine une figure intérieure qui oriente la relation à image féminine, à affectivité, à imagination et à médiation avec inconscient. Dans cette perspective, Jung ne décrit pas seulement des rôles sociaux ou des représentations culturelles. Il analyse des formes psychiques qui colorent la perception de soi et des autres. Le lecteur doit cependant éviter une lecture simpliste ou strictement normative de ces notions. Leur intérêt se situe dans la dynamique de projection et de différenciation. Lorsqu'une personne confond une figure intérieure avec une personne réelle ou une valeur absolue, elle risque de rester dominée par une image archétypique. Le travail de conscience consiste alors à reconnaître la charge symbolique de ces figures, afin de réduire les projections et de mieux intégrer leur énergie psychique. Quatrièmement, messe chrétienne et arbre mythique comme scène de transformation psychique. Le livre se distingue par son analyse des motifs religieux et mythologiques comme expression de processus psychiques. La messe chrétienne, abordée par Jung sous un angle symbolique, ne sert pas simplement de sujet théologique. Elle devient un modèle de transformation ou des gestes. Paroles et objets rituels organisent une expérience de passage entre visible et invisible, sacrifice et renouvellement, communauté et intériorité. Cette lecture montre comment un rite peut contenir une logique psychique collective, madme, lorsque ses participants ne la formulent pas en termes psychologiques. Le symbole de arbre joue un rôle comparable dans de nombreuses traditions. Par ses racines, son tronc, ses branches et sa croissance, il peut figurer continuité, élévation, lien entre profondeur et hauteur, ou développement de la vie psychique. Jung ne cherche pas seulement des ressemblances décoratives entre cultures. Il étudie pourquoi certaines images reviennent avec une force particulière lorsque la psyché tente de représenter le devenir, la totalité ou la relation entre origine et conscience. Ces analyses illustrent une idée fondamentale du livre, les symboles collectifs ne sont pas des ornements ajoutés à la pensée rationnelle. Ils constituent des formes par lesquelles une conscience encore partielle rencontre ce qui la dépasse et tente de se structurer. En dernier lieu, conscience comme émergence enracinée dans espèces, individus et inconscients, la réflexion finale du livre porte sur la nature de la conscience. Jung refuse de la traiter comme une création isolée, née uniquement de la décision rationnelle ou de histoires personnelles récentes. La conscience apparaît plutôt comme une émergence progressive, enracinée dans l'évolution des espèces, dans le développement d'individus et dans le fond obscur de inconscient. Cette thèse a une conséquence importante: devenir conscient ne signifie pas rompre avec les couches archaïques de la psyché, mais apprendre à les reconnaître, à les différencier et à les intégrer sans leur abandonner le pouvoir de direction. Le livre donne ainsi une dimension anthropologique à la psychologie analytique. Chaque sujet humain porte en lui des formes collectives qui précèdent sa biographie, mais ces formes ne déterminent pas mécaniquement son destin. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles agissent par projection, fascination ou identification. La conscience gagne en autonomie lorsqu'elle comprend la valeur symbolique des images sans se laisser subjuguer par elles. Cette position explique aussi la difficulté du livre. Jung demande au lecteur de penser simultanément le biologique, le culturel, le religieux et le personnel. Sa notion de racine désigne donc une dépendance profonde, mais aussi une possibilité de croissance lucide. En conclusion, Les racines de la conscience convient surtout aux lecteurs déjà intéressés par Jung, la psychologie analytique, l'histoire des religions, les mythes ou le symbolisme. Ce n'est pas une introduction facile, ni un manuel pratique de développement personnel. Le bénéfice principal est intellectuel, le livre aide à comprendre pourquoi certains symboles reviennent avec insistance dans les rêves, les rites, les mythologies et les représentations culturelles, et pourquoi ces images peuvent exercer une influence affective bien supérieure à une simple idée abstraite. Il peut aussi aider le lecteur à réfléchir aux projections psychiques, à la relation entre conscience et inconscient, et à la manière dont une culture façonne les images par lesquelles un individu se comprend. Par rapport à des ouvrages plus accessibles de psychologie jungienne, ce volume se distingue par son ampleur comparative et par sa densité théorique, par rapport à des études purement historiques sur les mythes ou les religions. Il propose une lecture centrée sur la dynamique psychique plutôt que sur la seule généalogie des croyances. Sa difficulté fait partie de son intérêt, il oblige à lire lentement. C'est là, vérifier les concepts et à tenir ensemble expérience intérieure, tradition symbolique et réflexion sur la conscience humaine. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. Oh, bientôt!